Bonjour et bienvenue sur le blog de la micronutrition 2.0. Aujourd'hui, j'ai décidé dans ce podcast de vous partager en une fiche synthétique. On va faire un zoom sur le fer. Le fer est un micronutriment qui est extrêmement important pour notre santé et dont le statut, malheureusement, et les fonctions sont encore aujourd'hui mal connus et surtout mal évalués. Je vous propose donc de vous réaliser une petite fiche synthétique sur le fer, sachant bien évidemment qu'il ne s'agit que d'un résumé qui est extrêmement simplifié et vulgarisé, et que, bien entendu, seul un professionnel de santé formé à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle sera en mesure d'évaluer votre propre statut en fer et de vous conseiller une complémentation personnalisée, ainsi que des habitudes alimentaires adaptées en tenant compte de votre santé globale. Rappelez-vous qu'il est indispensable d'avoir à la fois une approche personnalisée mais aussi précise de votre santé et une approche qu'on va dire intégrative parce qu'on va tenir compte de l'ensemble de votre organisme et qu'on va pouvoir faire des liens entre vos différents systèmes, entre vos différents organes puisque vous êtes composé de milliards de cellules qui communiquent toutes les unes avec les autres. Maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer qui est, je pense, indispensable à rappeler systématiquement, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le fer. Alors, déjà dans un premier temps, à quoi nous sert le fer ? On associe très régulièrement le fer à l'anémie, aux hémoglobines basses, mais le fer assure de très nombreuses autres fonctions au sein de notre organisme. Et qui sont souvent, encore une fois, malheureusement limitées à celle du transport de l'oxygène dans ce qu'on appelle l'hème. On attend donc malheureusement régulièrement d'avoir une anémie hypochrome avant de s'intéresser plus précisément au statut en fer. On vous dose en général dans le sang, dans la NFS, dans la numération formule sanguine, le taux d'hémoglobine, et quand on voit qu'il est bas, là on va aller s'intéresser un peu plus au fer. Mais malheureusement c'est une grosse erreur. Parce qu'on sait aujourd'hui que le fer intervient dans de très nombreuses réactions enzymatiques que je vais vous lister d'une manière très simplifiée et bien évidemment non exhaustive maintenant. Donc le fer effectivement sert au transport de l'oxygène du poumon vers les tissus via l'hémoglobine. Il permet la fixation de l'oxygène par la myoglobine également. Il intervient dans la détoxication hépatique, notamment au niveau de la phase 1 de la détoxication hépatique qui est dite phase de fonctionnalisation, où on a une intervention de protéines qu'on appelle des cytochrome oxydases, famille des CYP450 notamment. Et on a donc besoin d'un statut optimal en fer pour pouvoir soutenir cette activité détoxicante du foie. Qui est bien évidemment cette activité, cette détoxication hépatique est un des piliers de notre santé. Donc si on a un déficit en fer, on a ce pilier qui ne peut pas fonctionner de manière optimale. Bien évidemment, le fer va intervenir dans de nombreuses réactions chimiques qu'on dit d'hydroxylation, notamment dans la stéroïdogenèse, c'est-à-dire lorsque vous allez fabriquer vos hormones stéroïdes, donc notamment vos hormones sexuelles. On a donc besoin d'un statut optimal en fer pour avoir un bon équilibre hormonal. Dans les réactions d'hydroxylation comme celles qu'on retrouve au niveau de la synthèse de la vitamine D, effectivement la vitamine D qui est dite bioactive est une première fois hydroxylée dans le foie, puis une seconde fois hydroxylée dans les reins, pour qu'on puisse obtenir cette fameuse 1,25-dihydroxyvitamine D, qui est donc la forme active de la vitamine D. Donc on a besoin d'un statut optimal en fer pour pouvoir bénéficier d'un statut optimal en vitamine D active. Donc parfois, on se rend compte qu'on a des déficits en vitamine D, ou qu'on a des statuts en vitamine D puisqu'on dose la 25-hydroxyvitamine D, donc pas la 1,25, qui sont tout à fait correctes, mais on se rend compte qu'on n'a pas un état de santé optimal, et bien il se peut qu'on ait un problème d'hydroxylation de cette vitamine D, notamment. La vitamine D, je vous le rappelle, n'a pas uniquement un effet sur le métabolisme phosphocalcique, bien au contraire, elle a de très nombreux effets sur de très nombreuses sphères, et notamment dans le contrôle de la régulation de notre système immunitaire. Il est donc capital d'avoir un statut en vitamine D optimal et cette, la valeur à atteindre est à déterminer par un professionnel de santé en fonction de votre état de santé. Je vous ai fait une fiche déjà Zoom sur la vitamine D que vous pourrez retrouver sur le blog. Alors ce fer, revenons-y, il intervient également dans tout ce qui est synthèse de neuromédiateurs et de leurs précurseurs. On est aussi dans des phases d'hydroxylation. Vous avez peut-être déjà entendu parler du neuromédiateur qui s'appelle la dopamine, l'hormone du plaisir. Ce neuromédiateur, pour pouvoir être synthétisé, a besoin d'un acide aminé précurseur qui s'appelle la tyrosine. La tyrosine, pour pouvoir être synthétisée, doit venir de la phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel, qui doit, elle, être hydroxylée en tyrosine. Donc, si on n'a pas suffisamment de fer, on ne peut pas transformer sa phénylalanine en tyrosine, et donc on pourrait avoir un déficit en tyrosine qui pourrait expliquer un déficit plus tard en dopamine, et cette dopamine est vraiment le starter de notre cerveau. Donc, si vous vous trouvez fatigué physiquement, psychiquement, si vous manquez de motivation, si vous avez du mal à prendre du plaisir dans ce que vous faites habituellement, vous présenter peut-être un déficit en dopamine et celui-ci peut peut-être également venir d'un déficit ou en tout cas d'un statut en fer non optimal. Un autre neuromédiateur qui est important, c'est la sérotonine. La synthèse de sérotonine, elle dépend en partie de notre statut en fer parce que le fer va se retrouver être le cofacteur d'une enzyme qui s'appelle la tryptophane hydroxylase qui va donc permettre de réaliser toutes les réactions de synthèse de cette sérotonine. On va partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qu'on va hydroxyler en 5-hydroxytryptophane pour pouvoir avoir plus tard de la sérotonine. La sérotonine est un neuromédiateur qui permet de gérer notre humeur et aussi notre comportement alimentaire. Donc si vous présentez des troubles de l'humeur, une humeur qui est vacillante, une difficulté à gérer vos compulsions alimentaires, notamment vers les aliments sucrés, peut-être que vous présentez un déficit en sérotonine, et peut-être que ce déficit en sérotonine est en partie dû à un déficit en fer. Je dis bien en partie parce qu'il y a de très nombreux autres mécanismes qui pourraient expliquer un déficit en sérotonine, mais je ne pourrai pas vous les expliquer dans cette vidéo. C'est ce pourquoi c'est compliqué de prendre en charge un patient en médecine fonctionnelle nutritionnelle, parce qu'il faut avoir une vision très 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 globale de tous les mécanismes qui peuvent rentrer en jeu, et qu'il ne faut pas faire de raccourcis et d'avoir de vision et de réflexion monosynaptique. Donc oui, le fer pourrait être responsable d'un déficit en sérotonine et donc de vos compulsions alimentaires sucrées, mais pas que, bien loin de là. Alors le fer, il a aussi une importance capitale dans la production d'énergie, et si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez avoir un niveau d'énergie physique et psychique optimal, vous avez besoin d'avoir une bonne synthèse d'ATP. Et il intervient plus précisément au niveau de la chaîne de phosphorylation oxydative, donc dans la respiration cellulaire, au niveau du premier moulin à protons. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque là on est dans de la biochimie pure. En tout cas, il a un rôle important dans le transport des électrons et on sait que ce transport des électrons va nous permettre au niveau de la mitochondrie d'avoir une production d'énergie sous forme d'ATP optimale. Alors souvent pourquoi on se retrouve fatigué lorsque l'on a une carence en fer. Et puis le fer a aussi un rôle important et complexe dans les infections que je n'aborderai pas dans ce podcast parce que c'est relativement compliqué et les bactéries se servent du fer pour pouvoir proliférer, mais notre système immunitaire a aussi besoin du fer pour pouvoir se défendre contre ces bactéries. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais sachez que un patient qui présente une candidose digestive récidivante, s'il n'a pas un statut en fer optimal, n'arrivera pas à lutter contre cette candidose. Donc vous voyez que le fer, bien plus qu'un simple transporteur d'oxygène, intervient à de nombreux endroits, est le cofacteur de nombreuses enzymes et clairement joue un rôle central dans notre santé, et que pour avoir un état de santé optimal, on ne peut pas se contenter de ne pas être anémié. Il faut optimiser toutes ces réactions et je vous en ai listé quelques-unes, mais il y en a bien d'autres, il y en a environ 200. Alors, comment évaluer ce statut en fer ? Parce qu'aujourd'hui, les recommandations officielles en médecine allopathique Et ce qui est fait également par les médecins allopathes qui ne sont pas formés à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, il y a vraiment des divergences et il y a des bilans qui sont proposés qui ne sont clairement pas des bilans qui permettent d'évaluer correctement les statuts en fer. Donc l'évaluation du statut martial, c'est clairement complexe. Hein, on ne peut pas se contenter de doser le fer sérique. Moi, je vois régulièrement des bilans où il y a uniquement le fer sérique et je vous le dis et je l'assume, il n'y a clairement aucun intérêt à doser le fer sérique. Un bilan martial de première attention devrait prendre en compte à minima le dosage de la ferritine et celui de la CRP ultrasensible. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que si on a une inflammation, qu'elle soit aiguë ou une inflammation chronique de bas grade, peut entraîner une élévation de la ferritine sans qu'on ait un statut en fer optimal. Donc là aussi, il faut avoir bien conscience de ces processus pour pouvoir interpréter correctement un bilan. Parce qu'on pourrait passer complètement à côté d'une anémie, ou en tout cas, excusez-moi, je me trompe de terme, on pourrait passer à côté d'un déficit en fer parce qu'on aurait une inflammation. Donc il serait également intéressant de doser la transférine, qui est l'hormone de transport, la protéine de transport du fer, alors que la ferritine est la protéine de stockage du fer, et donc le coefficient de saturation de la transférine pour voir est-ce que cette transférine est suffisamment chargée ou pas. Et dans certaines situations, en seconde intention, on pourrait être amené à doser ce qu'on appelle l'hepcidine, qui est une cytokine inflammatoire, qui, alors pour faire très simple, augmente quand on a un terrain inflammatoire et empêcherait donc l'assimilation de fer par voie orale ou de fer alimentaire. Donc il faudrait mettre en place une autre stratégie pour optimiser le statut en fer, notamment des injections de fer en intraveineux. Donc c'est vraiment à votre professionnel de santé qui va être formé à la biologie préventive, à la biologie d'investigation, puisque c'est vrai que dans les recommandations officielles, ce ne sont pas exactement les mêmes bilans qui sont proposés, de pouvoir définir quel est le bilan biologique le plus adapté à votre situation et surtout d'être capable d'interpréter ces résultats en tenant compte de votre contexte clinique global et de l'ensemble des signes fonctionnels que vous présentez. Donc il n'y a pas de formule magique, mais globalement, il doit au moins avoir une ferritine, une CRP ultrasensible. Alors j'insiste sur ce point, car vous ne vous résumez pas qu'à des résultats de bilan biologique et qu'il faut toujours concevoir l'interprétation de ces bilans en gardant à l'esprit votre contexte clinique. Hein. Vous n'êtes pas qu'une succession de chiffres sur un bilan biologique. Alors j'insiste également sur une notion importante, celle des valeurs optimales santé, qui sont bien différentes des valeurs normales proposées par la majorité des laboratoires d'analyse biologique. Donc la fourchette, notamment pour les femmes, va de 15 à 250 pour le faire. Donc vous vous doutez que si vous avez un statut à 30 et un statut à 220, ça n'a pas du tout le même impact sur votre santé. Donc c'est important de se rapprocher d'une valeur optimale santé qui va être définie par votre professionnel de santé en fonction de votre état de santé. Donc c'est pas si simple que ça, on n'applique pas des formules identiques à tout le monde. Donc bien que je n'aime pas faire de généralisation et qu'elle soit à fuir dans le domaine de la santé, globalement pour une femme en période d'activité génitale, la ferritine devrait être au minimum aux alentours des 75 nanogrammes par millilitre. Mais encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser ce statut en fer ? Déjà, il faudrait comprendre quels sont les mécanismes d'absorption du fer. Parce que le fer est la biodisponibilité du fer, c'est-à-dire la quantité de fer qui va être réellement absorbée et arriver au niveau des sites actifs, elle est hautement régulée, ce sont des mécanismes qui sont très compliqués, il y a de nombreuses protéines qui interviennent, notamment le DMT1, la ferroportine, l'hepcidine, enfin il y a vraiment de très très nombreuses protéines qui interviennent, et si on ne connaît pas ces mécanismes biochimiques, on aura beau vouloir essayer, se complémenter en fer, ça ne servira pas à grand-chose. Comme je le dis souvent, c'est la compréhension de tous ces mécanismes qui pourra nous permettre de mettre en place une véritable prise en charge optimale. Donc la biodisponibilité du fer, finalement, dépend de très nombreux facteurs. Donc l'assimilation du fer, son stockage, sa libération, c'est des mécanismes qui sont donc extrêmement régulés et donc très complexes, et qu'il faut donc comprendre si on veut optimiser un statut en fer. C'est ce que je viens de vous expliquer, mais j'insiste lourdement là-dessus. Alors déjà, le récepteur par lequel le fer non héminique est absorbé s'appelle le DMT1, c'est son petit nom, diméthyltransporteur. Et en fait, il y a des mécanismes de compétition avec d'autres micronutriments, parce que c'est un transporteur qui est donc divalent. Et donc, pour éviter d'avoir une compétition trop importante entre les micronutriments, il faudrait éviter d'avoir une prise concomitante de fer avec notamment d'autres minéraux comme le calcium, le magnésium, notamment, mais pas que. La biodisponibilité du fer va dépendre notamment de la forme sous laquelle vous allez prendre ce fer. Donc, on a déjà deux types de fer. On a le fer héminique et le fer non héminique. Donc, le fer héminique, c'est celui que vous allez retrouver dans les produits animaux, dans la viande. Alors, globalement, le fer contenu dans la viande représente que 6% des apports alimentaires, mais par contre, à l'avantage de présenter une excellente biodisponibilité qui peut aller jusqu'à 40% et qui est peu influencée par les autres aliments. Le fer héminique, on va retrouver dans l'hémoglobine, qui contient 4 anneaux porphyriques, et dans la myoglobine, qui ne contient qu'un seul anneau porphyrique. C'est pour ça que c'est plus intéressant, en tout cas au niveau des apports en fer, de consommer du boudin noir, puisque là on est sur du fer de l'hémoglobine, héminique de l'hémoglobine, que de la viande rouge. Parce qu'on est sur du fer héminique, mais de la myoglobine. Ça, c'est un point qui est important. Et finalement, le fer qui est contenu dans la viande rouge, plus en fait la viande va être rouge, plus elle va être riche en myoglobine, et donc plus elle va être riche en fer. Mais c'est pas nécessaire de manger cette viande forcément saignante ou bleue. Elle contiendra toujours les mêmes quantités de fer. Et on retrouve également du fer non héminique, qui lui est contenu dans les produits végétaux. Alors là, on est sur plus de 90% des apports alimentaires. Hein. On consomme beaucoup plus normalement de produits végétaux que de produits animaux. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que la biodisponibilité du fer non héminique est très mauvaise. Hein. On est entre 2 et 10% et plus souvent autour des 2 que des 10%. Et l'autre problème du fer non héminique, c'est que son assimilation dépend de nombreux autres facteurs qui peuvent globalement fortement diminuer sa biodisponibilité, notamment le pH, tout simplement. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà du fer héminique et du fer non héminique, on a également le fer qui va être présenté soit sous état ferreux, c'est le Fe2+, soit sous état ferrique, c'est le Fe3+. Et en fait, au niveau du transporteur, le DMT1, le fer qui est capté par ce transporteur, c'est le fer ferreux. Il faut donc pouvoir maintenir le fer sous son état Fe2+, et c'est pour ça qu'on dit régulièrement qu'un apport en vitamine C va permettre de maintenir le fer sous l'état ferreux et donc d'améliorer sa biodisponibilité. Donc vous voyez, on a toujours des explications biochimiques à des conseils alimentaires que vous pouvez entendre comme ça à droite à gauche. Vous saurez maintenant que la vitamine C permet de maintenir le fer sous l'état ferreux et donc ce fer sous état ferreux va pouvoir se fixer sur son transporteur DMT1 et donc être assimilé au niveau de l'entérocyte. Alors, les risques de carence et les apports. Alors, les risques de carence, on a des risques de carence en fer, forcément, quand on se retrouve dans des situations où les besoins en fer sont accrus, notamment pendant la grossesse. Lorsqu'on a des pertes de sang importantes, par exemple pour une femme, tous les mois, à chaque menstruation. Lorsqu'on a des apports insuffisants, alors que ce soit par manque d'apport alimentaire, donc des personnes qui mangeraient par exemple, qui ne mangeraient pas du tout de viande rouge ou d'abats ou de boudin, ou par difficulté d'assimilation. Parce qu'on pourrait avoir des apports, mais avoir eu une chirurgie gastrique par exemple qui modifierait le pH, ou des problèmes de malabsorption au niveau de la muqueuse digestive. Le principal signe évocateur d'un déficit ou d'une carence en fer, qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille et nous faire vous prescrire un bilan martial, c'est la fatigue. La fatigue, qu'elle soit physique ou psychique. La complémentation en fer, donc bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre de fer sans avoir réalisé de bilan martial, et c'est votre thérapeute qui décidera de la complémentation à mettre en place. Toutefois, vous pouvez quand même avoir quelques principes généraux en tête. Les sels ferreux, donc Fe2+, sont bien mieux assimilés que les sels ferriques. l'assimilation du fer est plus importante sur un estomac vide, alors pas forcément à jeun le matin, mais en tout cas à distance des repas. L'absorption du fer, elle est améliorée par donc la vitamine C qui permet en tout cas de maintenir le fer sous son état ferreux, par l'acidité gastrique, donc attention à toutes les personnes qui sont sous IPP, sous Mopral, Inexium, Inipompe. L'absorption du fer est également améliorée si c'est un fer qui est donc sous forme héminique, donc dans les produits animaux. Bien évidemment, on va avoir une meilleure absorption du fer si les taux de réserve en fer sont bas et si on a des besoins accrus en fer, notamment pendant la grossesse. Donc notre corps est quand même plutôt bien fait. L'absorption du fer est entravée par l'acide phytique que l'on va retrouver dans les céréales complètes notamment et dans le chocolat. Donc ne pas prendre sa complémentation en fer en même temps qu'un repas contenant des céréales complètes. Par les tanins que l'on va retrouver dans le thé, dans le café, dans le vin. Par l'acide oxalique qu'on va retrouver également dans le thé, dans le cacao, mais aussi dans les épinards. Et par les polyphénols qu'on va retrouver dans le thé, dans le café. Je vous ai expliqué que le transporteur du fer, le DMT1, était un transporteur divalent. Donc bien évidemment, si vous prenez une complémentation, par exemple en calcium ou en zinc en même temps, ça va diminuer la biodisponibilité du fer. Et je vous ai parlé également des antiacides. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir trouver du fer? Bien évidemment, je vous en ai parlé, on va pouvoir trouver du fer au niveau des produits animaux avec une très bonne biodisponibilité. C'est mieux dans tout ce qui est fer de l'hémoglobine, donc dans les abats bio, j'insiste, dans le boudin noir bio. On peut également en trouver dans les viandes rouges bio. Et puis vous en trouverez dans les produits végétaux, mais la biodisponibilité est moins bonne, notamment dans les abricots secs, dans les figues séchées, dans les dattes, dans les céréales enrichies. Sachez que la richesse des épinards en fer est une légende, c'était une secrétaire qui devait relever les teneurs en fer qui a multiplié, il me semble, par 10 son taux, et puis c'est resté, d'où la légende de Popeye. Mais les épinards contiennent du fer, mais c'est absolument pas la source la plus biodisponible qui existe. Et puis je terminerai sur les excès en fer, parce que on parle depuis le début de ce podcast d'optimiser un statut en fer en cas de déficit. Mais sachez que les excès en fer sont tout aussi délétères que les carences. Hein. On est vraiment sur ce principe d'Hormèse. Tout ce qui est micronutriments peuvent être délétères, qu'ils soient en déficit, en carence ou en excès. Et les excès en fer, le problème principal, c'est que le fer en quantité excessive est pro-oxydant via ce qu'on appelle la réaction de Fenton. Et on a donc une production de radicaux libres, de radical hydroxyle, qui génère un stress oxydant très important. Donc il ne faut pas trop de fer. Et puis on sait qu'on a une pathologie aujourd'hui qui est due à une absorption excessive de fer qui s'appelle l'hémochromatose. Et cette hémochromatose, on va se retrouver, c'est une maladie génétique héréditaire hein, qui va entraîner des lésions irréversibles au niveau du foie, justement parce que le foie est l'organe de stockage du fer et qu'on va avoir donc cette production de radicaux libres qui ne pourra pas être prise en charge par nos systèmes gérant le stress oxydant. L'hémochromatose est dépistée par un test génétique. Et au début, quand on fait un bilan martial, on va aller regarder le coefficient de saturation de la transférine. Et dès qu'il est un peu élevé, au-dessus de 35-40, déjà ça nous met un peu la puce à l'oreille. Et on peut se retrouver avec des ferritines qui sont à 500, 600, 700. Et là, bien évidemment, il va falloir prendre en charge cet excès de fer, globalement mise en place de saignées thérapeutiques. Voilà, écoutez, j'ai fait le point assez rapide, je pense, une petite vingtaine de minutes pour vous faire ce petit zoom sur ce micronutriment mal aimé, mal connu, mal diagnostiqué, duquel on a peur alors qu'on en a besoin, mais encore une fois, ni en excès, ni en carence. Le fer. J'espère que ce podcast vous aura apporté certaines informations, peut-être vous aura donné envie d'aller vous faire un bilan martial, hein, de consulter et d'envisager peut-être de vous faire prendre en charge et de vous complémenter si besoin il y a. Je vous souhaite une très très bonne journée. À votre santé !